Bonsoir à tous.
J'avais à cœur de partager une pensée qui parle de la nécessité de grandir et de produire du fruit. C'est un peu dans la continuité de ce que nous avons entendu la semaine dernière. Et j'aimerais qu'on aille un peu plus loin aussi dans cette pensée. Vous savez, on dit toujours qu'il faut naître de nouveau. C'est ainsi que se matérialise la rencontre avec Dieu, c'est ainsi que se matérialise le fait qu'un jour on comprenne que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, que son sang a coulé parce qu'il nous aimait, parce qu'il ne voulait pas que la condamnation retombe sur nous, alors il l'a prise. Et celui qui comprend ces choses, qui s'approche de Dieu, le cœur repentant, honnête et sincère, vit ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est sûr que c'est une étape très importante pour hériter du salut. Seulement, comme vous venez de l'entendre, il s'agit d'une naissance. Donc, qui dit naissance, dit croissance. Il faut de la croissance. Il ne faut pas rester des petits bébés au lando, mais si je suis né de nouveau, je suis appelé à croître, à grandir. Et c'est très, très important de bien le comprendre. J'aimerais qu'on lise quelques textes en introduction de ce message. Le premier, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er, et nous lisons le verset 28. Colossiens, chapitre 1, verset 28. Voici ce que je lis. C'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. La version Parole Vivante dit ceci, pas en entier, je cite une partie du verset qui parle d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Voilà ce qui est dit pour rendre parfait. Je le répète pour que vous entendiez bien. Amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Donc c'est ma communion vivante avec le Christ. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, ils vont comprendre ce dont je parle. C'est cette communion vivante avec le Christ qui va faire que je vais avoir une pleine maturité spirituelle. Un deuxième verset, toujours dans Colossiens, au chapitre 2, et nous lisons les versets 6 et 7. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ, Jésus, le Seigneur, marchez en lui, soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Je vous cite aussi la version Parole Vivante parce que je la trouve aussi intéressante. Aussi, puisque vous avez appris à connaître Jésus-Christ et que vous l'avez accepté comme Seigneur, marchez sous sa direction, en communion vivante avec lui. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Je répète cette phrase parce que c'est important. Que les racines de votre être s'implantent toujours plus profondément en lui. Construisez toute votre vie intérieure sur lui. Attachez-vous de plus en plus fermement à la foi qu'on vous a enseignée. Marchez-y de progrès en progrès et que votre bouche déborde de prières, de reconnaissance. Il est question de s'enraciner profondément, toujours plus profondément en lui. Un autre texte que nous allons prendre cette fois-ci dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, et nous lisons le verset 9. Luc, chapitre 3, verset 9. Déjà, même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, est coupé et jeté au feu. La cognée, c'est ce qu'on appelle, on dit aussi les coins, c'est les grosses parties métalliques qui servent à couper. Donc en fait, quand on veut abattre un arbre, on plante la cognée un peu dans l'arbre, et ensuite on l'attaque à la masse pour enfoncer la cognée, et on enfonce plusieurs cognées tout autour, et c'est ainsi qu'on coupe l'arbre. La cognée est déjà dessus. Et enfin, cette parabole, au chapitre 13. Je fais quelques lectures d'introduction, mais c'est important de les lire. Luc 13, verset 6, c'est Jésus qui parle. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année. D'ici là, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, produira-t-il du fruit, sinon, tu le couperas. » Nous sommes un peu comme ce figuier. Et la question que je me suis posée sur cette parabole, c'est sur cette parabole que nous allons réfléchir ce soir. Pourquoi donc ce figuier ne porte-t-il pas de fruits ? Est-ce qu'il ne trouve pas assez d'eau ? Est-ce qu'il est trop jeune ? Qu'il n'est pas parvenu à maturité ? Et une question un peu parallèle en lien avec cette première lecture de Luc. Est-ce que ce figuier, même s'il produit du fruit, est-ce qu'il produit justement du bon fruit ? Parce que comme on l'a lu dans Luc, il y a des bons fruits et des mauvais fruits. Alors, la question se pose. Première question, un figuier qui ne trouverait pas d'eau. Je me suis renseigné sur le figuier. Et ce figuier, déjà, je ne sais pas si vous avez bien fait attention dans cette parabole, c'est un figuier planté. C'est pas un figuier qui était là depuis toujours. C'est un figuier qui a été planté. Autrement dit, quand on plante un arbre, c'est qu'il est tout petit. C'est un figuier planté. Et ça fait 3 ans qu'il est planté. Je ne sais pas, pour ceux qui travaillent peut-être dans les champs, est-ce que vous avez déjà vu des arbres fruitiers donner du fruit dès la première année ? Non, ce n'est pas possible. En fait, un figuier, quand on le plante, et comme beaucoup d'arbres fruitiers d'ailleurs, dans un premier temps, dans les premières années, il ne donne pas de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il cherche à approfondir ses racines. Il lui faut des racines suffisamment fortes pour pouvoir aller puiser l'eau où elle y est. Un figuier va vraiment, dans un premier temps, développer son enracinement. C'est la première chose que fait un figuier quand il est planté. Et j'ai lu certains articles qui disaient qu'on arrive à trouver sur des montagnes des figuiers accrochés à des rochers avec des racines longues de 20 mètres pour aller plonger dans des fentes pour pouvoir trouver l'eau nécessaire. Mais le figuier, là où il est accroché, c'est pas l'endroit où il y a l'eau. La racine fait 20 mètres de longueur et elle va jusqu'à se plonger dans une fente du rocher pour y trouver l'eau dont elle a besoin. Le figuier travaille son enracinement. Et tant qu'il n'a pas trouvé d'eau, c'est ça qu'il faut comprendre, tant qu'il n'a pas trouvé d'eau, le figuier, il va développer ses racines. Tant qu'il n'a pas trouvé d'eau. Donc il est important qu'il trouve de l'eau. Comment un figuier tout jeune se développe ? D'abord, c'est un jeune plant. Un jeune plant, il a des petites racines, on le plante en terre, et il vit que de l'arrosage finalement, la pluie, et c'est suffisant pour ce jeune plant pour grandir. Et donc, il trouve de l'eau facilement. Alors, il y a un parallèle que je fais avec le chrétien finalement, le chrétien qui se convertit, qui naît de nouveau, effectivement, au début, l'arrosage du ciel suffit. Quelqu'un qui vient de se convertir, je dirais, les prédications, la communion fraternelle, tout ça c'est bien, et ça permet à cette personne qui vient de se convertir, qui vient de naître de nouveau, de grandir, d'avoir ces premiers jours de croissance, ces premiers temps de croissance, c'est suffisant. Et ainsi que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, quelqu'un qui naît de nouveau, il lui est important de fréquenter l'église pour recevoir cet arrosage qui vient de Dieu par ses enseignements que nous pouvons dispenser, par la communion fraternelle, par les conseils de l'un, de l'autre. Ça, c'est ce que j'appellerais l'arrosage qui vient d'en haut. C'est la pluie qui nous tombe dessus et qui nous fait du bien. Seulement, à un moment donné, le jeune plant, il commence à atteindre un stade où cette pluie-là n'est plus suffisante. Et le figuier va passer en mode « je cherche de l'eau en terre ». Et là, il va développer des racines. Le problème, c'est que souvent, cet enracinement, de quoi il parle, ces racines, elles vont chercher quoi? Elles vont chercher l'eau dans la terre. Elles vont chercher la source dans la terre. Et hélas, on connaît des personnes, ça arrive très régulièrement, où on se contente du petit arrosage. On se contente des prédications. On se contente du lien fraternel. On se contente des cantiques, des réunions. Mais le problème, c'est que on en a entendu suffisamment, mais il nous faudrait grandir plus, mais on ne peut pas. Parce qu'on se contente au simple arrosage. À la différence d'un arbre, un homme spirituel, une femme spirituelle née de nouveau, est responsable de sa croissance. Un arbre, il n'est pas responsable de sa croissance. Mais nous, oui. D'un point de vue spirituel, c'est nous qui sommes responsables de notre croissance. Et hélas, c'est quelque chose que nous voyons souvent quand nous posons la question « Mais est-ce que vous lisez la parole de Dieu ?»« Ah non. Non, j'y arrive pas, j'y comprends rien. » Vous comprenez bien qu'à un moment donné, les prédications, la présence aux réunions, la communion fraternelle, tout ça c'est bien. Mais c'est que de l'arrosage. Et le jour où il y aura la sécheresse, le jour où il y aura les épreuves, ça sera pas suffisant. Même si, bien sûr, une prédication peut faire du bien. Dieu peut donner un message par l'esprit au prédicateur pour faire du bien à quelqu'un qui a vraiment besoin. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La prédication est utile et on a besoin des prédications, on a besoin des enseignements. Mais il y a plus que ça. Et si vraiment nous voulons grandir, ce n'est pas suffisant. Le problème de ces personnes qui ne s'appuient que sur des prédications, que sur des choses superficielles, ce sont des personnes qui n'auront pas de vie de foi, qui n'arriveront jamais à s'ancrer dans quelque chose, qui n'arriveront jamais à croire sur parole ce que Dieu dit. Ce sont des personnes qui sans cesse auront besoin d'être soutenues. Parce qu'elles seront toujours fatiguées, épuisées, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de force, parce qu'elles n'épuisent pas où il faut. Des personnes aussi pourraient même causer du trouble, parce que ce qu'elles connaissent de la parole est tellement faible que dans diverses situations, à force, comme elles comprennent mal certains sujets, parce qu'elles ne se plongent pas dans la parole et qu'elles comprennent mal certains passages, elles pourraient devenir des sujets de trouble. Parce que elles vont avoir des réflexions, elles vont mal réagir, etc. Et c'est ainsi qu'il peut y avoir des histoires. Tout cela parce que je ne lis pas la parole. Vous savez, il y a quelque chose de très intéressant dans ce que dit le maître dans cette parabole. C'est quand il dit, au verset 7, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, si ce figuier ne trouve pas d'eau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer ses racines. Et quand un arbre commence à faire beaucoup de racines, ça prend beaucoup de place dans la terre. Et des racines qui sont ainsi très abondantes dans la terre, quand il pleut un petit peu, ces racines-là prennent toute l'eau de la terre. et ainsi tout ce qui peut être autour n'a plus d'eau. Donc on en arrive à une situation où quelqu'un, c'est ce que j'expliquais, quelqu'un qui n'est pas ancré dans la parole, quelqu'un qui fait beaucoup de racines en superficiel pour chercher de l'eau alors qu'il n'y en a pas, qui ne vont pas suffisamment profondément, eh bien elles deviennent, entre guillemets, elles occupent la terre inutilement et peuvent même être une source d'affaiblissement pour les autres. Une situation classique d'une personne qui est sans cesse dans la défaite, qui réclame sans cesse des visites, et on va la visiter parce que c'est une sœur ou c'est un frère en Christ. Mais ce sont des visites, des fois, qui servent à rien. On y va, on donne des conseils, on prend exemple sur la parole, et on ressort, et il n'y a pas de mise en pratique, il n'y a rien derrière. Et la personne qui est allée visiter, entre guillemets, a perdu son temps. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire les visites non plus. C'est des visites, il faut les faire, on les fait, et on est heureux de les faire. Mais c'est pour que vous compreniez bien que si, moi, je me contente de quelque chose de superficiel, je pourrais être une charge pour les autres, parce que je ne veux pas comprendre, je ne veux pas me plonger dans la parole. Alors que c'est justement là que je vais trouver tout ce dont j'ai besoin. Je vous laisse en référence le psaume 1, mais il nous parle exactement de cela. Quand il est dit, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'est pas ainsi des méchants. Celui qui ainsi cherche à trouver l'eau, au fond, la source, la seule source de la parole de Dieu, trouvera là ce dont il a besoin pour grandir. Le figuier va chercher au fond la source, pour qu'il n'ait plus besoin de l'arrosage. C'est ainsi que l'arbre peut survivre à la sécheresse. C'est ainsi que l'arbre devient robuste aux différentes températures, qu'elles soient négatives, qu'elles soient très fortes. Le figuier, une fois qu'il a trouvé, que sa racine a trouvé la source, c'est bon. Il peut supporter les différentes épreuves, les différentes difficultés. Et la source, je ne vais pas tourner autour du pot trop longtemps, vous avez bien compris qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Qu'il s'agissait de Jésus-Christ en personne. Il y a quelques exemples, je ne fais que le citer pour ceux qui prennent des notes. Lisez Ézéchiel 47. Nous avons une source qui coule d'un autel. C'est l'autel, c'est le lieu où a lieu le sacrifice. Jésus-Christ, quand il est mort, on lui a percé le côté. Qu'en est-il coulé ? Du sang et de l'eau. C'est là la source. C'est là la source que j'ai besoin. Et c'est Jésus lui-même qui a dit, dans l'évangile de Jean, pour ceux qui prennent des notes, versets 37 à 40, c'est Jésus qui disait, celui qui a soif, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vie couleront de son sein, comme dit l'écriture. Juste avant, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Elle est là, la source. La connaissance de Jésus-Christ. La communion vivante, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Jésus-Christ. C'est ça qui me permettra de grandir. C'est ça qu'il me faut rechercher. C'est là qu'il me faut faire des efforts pour ainsi avoir des racines solides, bien implantées, au bon endroit. Il est question d'efforts. Je vous le cite aussi, c'est l'apôtre Pierre qui le dit. Dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 3 à 8, il est question de faire des efforts. Et ces efforts nous permettent de grandir. Mais au bout du compte, ces efforts, pourquoi on les fait ? Pour connaître Jésus-Christ toujours plus. C'est le plus important. On ne fait pas des efforts pour s'améliorer. On ne fait pas des efforts pour essayer de gommer certains défauts. Non. Les efforts qu'il faut faire, c'est connaître Jésus-Christ. Parce que si je connais Jésus-Christ, si j'ai une communion vivante avec lui, alors, quand je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie, je fais appel à lui et il intervient. Je lui demande du secours et c'est lui qui agit. C'est lui qui me transforme. Je me rends compte peut-être que je manque d'amour pour mon frère et ma sœur. Seigneur, mon Dieu, travaille mon cœur. Donne-moi de l'amour. C'est pas à moi de travailler. C'est Jésus qui travaille. C'est le joug qu'il veut que nous portions, mais c'est lui qui travaille. On est associé avec lui, mais c'est lui qui fait le plus gros du travail. mais il nous faut faire cet effort pour apprendre à le connaître. C'est ainsi que je vais pouvoir avoir des racines solides qui seront bien implantées au bon endroit, et c'est ainsi que je vais pouvoir grandir. C'est la seule source. D'ailleurs, j'en arrive à cette question peut-être. Où est ta source? Où est-ce que tes racines plongent? Est-ce que tu te nourris d'éphémérides, de messages du matin? Je n'ai rien contre ça, bien sûr. Mais c'est superficiel. Ce n'est pas la parole de Dieu. Même si c'est basé sur la parole de Dieu, c'est des pensées qui sont bonnes. Là encore, ce sont des bonnes choses, bien sûr. Mais ce n'est pas de la nourriture solide. Deuxième point pour lequel un figuier ne peut pas porter de fruits, c'est tout simplement son âge. Et là, je vais peut-être m'adresser à ceux et celles peut-être qui sont plus ancrés dans la parole et qui voient, qui assistent à des nouvelles naissances et qui ont peut-être parfois des comportements exigeants, des comportements qui demandent beaucoup. Il faut savoir qu'un arbre, quand il naît, quand il est planté, il ne peut pas porter de fruits tout de suite. Avez-vous déjà vu des enfants avoir des enfants? Non. Ce sont les adultes qui peuvent avoir des enfants. C'est quelque chose de simple qu'on comprend tous. Mais quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance, c'est la même chose. Tant que ce nouveau-né n'a pas plongé suffisamment ses racines, tant qu'il n'a pas cherché suffisamment à connaître Jésus-Christ, il ne faut pas nous attendre à des fruits. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Et le problème, c'est que nous qui encadrons, nous qui sommes là et qui voyons peut-être des nouveaux frères et sœurs qui se convertissent, on voudrait tirer dessus pour qu'il y ait du fruit. Alors on leur dit « Attention, dis pas ça, dis ça, fais pas ceci, fais cela plutôt. » Et on tire dessus et on finira par arracher si on continue. Il faut laisser pousser. Il faut laisser à la personne le temps de plonger ses racines. Si cette personne s'est vraiment convertie et qu'elle aime le Seigneur de tout son cœur, elle comprendra très très vite qu'elle a besoin de lire la parole. Et elle-même, à la lecture de la parole, y trouvera ce dont elle a besoin pour grandir. Ce n'est pas à nous autour. Nous, effectivement, on veille à pouvoir donner ce qui est bon. On veille à arroser. Nous, on arrose. C'est notre rôle. On arrose. Mais on tire pas dessus. Certainement pas. Il faut laisser à la plante le temps de faire ses racines. C'est normal qu'un jeune plant n'ait pas de fruits. Il nous faut être patient. Il nous faut prendre le temps de laisser à la personne le temps de découvrir Jésus-Christ en lisant la parole. Et les changements vont se voir tout seuls. À force de temps, à force de persévérance, cette personne qui lit la parole, qui s'attache à la parole, va finir par porter du fruit parce que Jésus-Christ lui parle directement. Faisons attention. Nous qui sommes plus ancrés dans la foi, nous qui sommes amenés peut-être à entourer ceux qui viennent pour la première fois, ceux qui viennent de se convertir, ça sert à rien de tirer sur la plante. C'est Jésus qui critiquait les pharisiens et qui disait ceci dans Matthieu chapitre 23 verset 4. Il lit des fardeaux pesants et les met sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du petit doigt. Faisons attention. Malgré tout, maintenant, j'aimerais avancer un peu et considérer la nécessité, et là, elle est absolue. Il n'y a pas de négociation possible. Il faut grandir. Si je suis né de nouveau, il me faut grandir. Il me faut prendre ce chemin de la croissance. Et pour ça, j'aimerais lire avec vous ce passage dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Et nous y voyons là toute l'importance. Hébreux, chapitre 5, verset 11. À ce sujet, nous avons beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous deviez, avec le temps, être des maîtres, Vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'usage, ont le sens exercé au discernement du bien et du mal. Si je reste un enfant, je ne saurai jamais discerner ce qui est bien, ce qui est mal, je ne saurai jamais discerner ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît à Dieu, et je vais ainsi toujours rester là, sans savoir. Et ma méconnaissance des choses de Dieu finira par être une pierre d'achoppement peut-être pour d'autres. Ça peut aller loin de ne pas vouloir connaître la parole. Ça peut aller loin. Le Seigneur nous invite à grandir. Là, nous avons ici quand même un reproche qui est fait aux Hébreux parce qu'ils étaient encore au lait alors qu'ils auraient dû être des hommes adultes. Et qui dit homme adulte dit en capacité de porter du fruit. Si je n'ai pas grandi, je ne pourrai pas porter de fruit. Le but, il est là. Il est très important. Dans l'Épître aux Hébreux, on a aussi ce texte, au chapitre 12. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dans la version du Semeur, il est écrit ceci. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Alors, aux yeux de Dieu, ce qui est important, c'est notre décision. Ce n'est pas d'être grand, d'être petit, quelqu'un qui est né de nouveau, qui vient de naître de nouveau, si sa vie venait à être demandée, il est sauvé. On est bien d'accord. Mais par contre, ce qui relève de notre responsabilité, c'est notre choix. Est-ce que je veux grandir ou pas? Est-ce que grandir, ça m'intéresse? Parce que si je ne veux pas grandir, ça veut dire que je ne veux pas connaître Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il a donné sa vie pour moi, je l'ai compris, j'ai demandé pardon, mais derrière j'ai un comportement incohérent parce que je ne veux pas apprendre à le connaître. Je ne veux pas savoir qui il est alors qu'il vient juste de me sauver la vie. Je crois qu'il peut y a, c'est un comportement, je dirais, irresponsable. C'est Jean-Baptiste qui dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, il faut grandir ou il faut diminuer? Jean-Baptiste avait très bien compris que si son vieil homme, sa vieille nature, mourait, Christ en lui allait grandir. Donc si moi je meurs, Christ vivra. Si moi je vis, Christ est mort. Et si Christ est mort, il n'y a pas la vie. Et s'il n'y a pas la vie, il n'y a pas de fruit. On lit le texte ensemble, Galates, chapitre 2, verset 20. Nous venons de parler de ce qu'est la sanctification. La sanctification, pour paraphraser, c'est ce désir de vouloir grandir, tout simplement, de vouloir connaître Jésus. Et plus on apprend à le connaître, et plus il va nous former. Je suis crucifié avec Christ, et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc quand il dit « ce n'est plus moi qui vis », il se considère comme mort. Sa nature charnelle, il ne l'écoute plus, elle est morte. Et comme elle est morte, Christ a toute la place, il peut vivre. Il peut vivre à travers moi, et c'est ainsi que je peux porter du fruit. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. C'est un juste retour des choses, vous ne croyez pas? Le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, prend des risques pour que nous puissions être réconciliés en s'incarnant dans un être humain, en la personne de Jésus. Il va souffrir jusqu'à l'agonie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu, nous puissions être pardonnés, pour que la condamnation ne repose pas sur nous, mais sur lui. Et nous, derrière, on foulerait aux pieds en lui disant « Mais merci, mais ce qui tu es, ça m'intéresse pas. » Vous croyez pas, c'est ingrat. Imaginez, vous faites des cadeaux à quelqu'un, un cadeau à quelqu'un, il prend le cadeau que vous lui faites, et puis il vous dit pas merci, il ne vous remercie pas, et à la limite, il vous fait la tête en partant. Comment réagirez-vous? Il y a de quoi être offensé, je crois. Et il nous faut avoir ce désir de grandir. J'aimerais citer quelques exemples. Une fois qu'on porte du fruit, j'aimerais souligner l'importance. Je l'ai lu tout à l'heure, Luc chapitre 3, verset 9. « Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Si le fruit n'est pas bon, c'est que la source est mauvaise. Si le fruit n'est pas bon, c'est que la source est mauvaise. Il y a quelques exemples qui me sont venus. Par exemple, on a une histoire avec Ananias et Saphira, qui font preuve de générosité, qui donnent de l'argent après avoir vendu un champ. Ça a l'apparence d'un beau fruit, mais à l'intérieur, il est corrompu. Pourquoi? Parce qu'il y a du mensonge, parce qu'il y a de l'hypocrisie, parce que, en fait, ils n'ont pas été vrais avec ce qu'ils faisaient. Ils ont menti aux apôtres, ils ont menti à Dieu. Et le fruit qu'ils ont donné, c'était un fruit qui semblait bon, mais qui ne l'était pas. On a aussi la fausse conversion de Simon le magicien dans le livre des Actes, qui voulait marchander le Saint-Esprit par amour pour l'argent. Il voulait ce pouvoir qu'avaient les apôtres pour pouvoir lui-même, après, en faire un commerce. Ce qui l'intéressait, c'était pas d'être rempli du Saint-Esprit. Ce qui l'intéressait, c'est de pouvoir se faire de l'argent. Un fruit qui pourrait sembler bon, Seigneur, je veux être rempli du Saint-Esprit. Alors j'en arrive à poser cette question, peut-être. Pourquoi demandons-nous certaines choses à Dieu? C'est Jacques qui dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Qu'est-ce qui motive mes prières? Qu'est-ce qui motive les demandes que je fais à Dieu? Est-ce que c'est de porter du bon fruit? Est-ce que c'est finalement ceux qui m'entourent qui m'intéressent? Parce que si je veux être rempli du Saint-Esprit, c'est pour les autres, c'est pas pour moi-même. Et si je porte du fruit, le fruit, il est pas pour moi, comme l'a dit aussi Michael la semaine dernière, le fruit, il est pas pour moi. Il est pour les autres. Je vais pas le lire, ce serait trop long, mais pour ceux qui prennent des notes, lisez Jérémie chapitre 24. Dans Jérémie chapitre 24, c'est un chapitre qui est très intéressant parce qu'il est question des mauvaises figues et des bonnes figues. En plus, c'est en relation avec notre sujet. Je vous encourage à lire ce texte. Et vous verrez qu'il y a de bons fruits et de mauvais fruits. Et il y a des fruits qui semblent bons, mais qui ne le sont pas. Et je sais pas si vous avez repéré les bonnes figues, c'est pas forcément celles qui attirent les regards. Ce sont celles qui sont toutes pas belles, toutes fripées. Celles-ci, c'est les meilleures. Pourquoi? Parce que ça, il y a bien une bonne maturation, etc. Et c'est les meilleurs. Et c'est pas le plus beau fruit qui est le meilleur. Réfléchissons à ça. On parle du figuier, c'est pour ça que je le dis. On peut pas se changer. J'aimerais qu'on se recueille quelques instants. Dans cette parabole que Jésus a donnée, il y a quand même un avertissement qu'il nous faut réaliser. C'est que la cognée est sur l'arbre. Tout cela pour dire que notre vie ne nous appartient pas. Et vous savez, on peut être rétrograde dans l'Église. Il y a des rétrogrades qui ne sont pas dans l'Église. Mais il y a des rétrogrades qui sont dans l'Église parce qu'ils ont fermement décidé de ne pas vouloir grandir. Et selon cette parabole, ces personnes-là seront coupées. Et je suis désolé, mais c'est mon devoir de le dire aussi. Les personnes qui n'ont pas à cœur d'apprendre à connaître Jésus-Christ, qui ne veulent pas grandir, ceux et celles qui ne veulent pas faire connaissance avec Dieu, ceux qui ne veulent pas lire ce livre qui est sa parole, la parole de Dieu, ne pourront pas grandir, ne porteront pas de bons fruits, et l'arbre sera coupé et jeté au feu. Je crois que c'est suffisamment explicite pour que nous y réfléchissions. Est-ce que t'es déjà posé la question? Seigneur, comment tu me vois? Est-ce que je suis un enfant? Est-ce que je suis un bébé? Est-ce que déjà même cette question vous est venue à l'esprit de savoir si ce que Dieu pensait de vous? Est-ce que vous êtes travaillé par le fait de dire « mais je grandis pas, ça fait des années que j'ai pas grandi, ça fait des années que je lis pas la Bible, que je ne m'intéresse plus aux choses de Dieu ». Attention, peut-être ce soir c'est l'occasion de demander pardon au Seigneur. Peut-être ce soir c'est l'occasion pour toi de saisir une victoire. Et j'aimerais que ce soit le cas. Nous allons reprendre un dernier chant. Et pendant ce chant, vous pouvez vous avancer sur le devant, comme une prière. Avancez-vous comme en disant, Seigneur, je viens devant toi, je te demande pardon, je te demande ta grâce. Oui, Seigneur, tout à nouveau, je veux faire des efforts pour apprendre à te connaître. Il faut savoir que ces efforts-là seront payants. Ces efforts-là, le Seigneur saura les récompenser. Et vous serez récompensés par votre comportement. On a tout à gagner à apprendre à connaître Jésus-Christ. Est-ce que peut-être, en ce qui te concerne, tu te dis, mais moi, je suis même pas planté? Et que tu aimerais aussi te dire, mais oui, moi aussi, si je ne connais pas Jésus-Christ, moi, je le connais pas du tout, il faudrait que j'apprenne à le connaître. Alors approche-toi aussi sur le devant et nous allons prier pour toi, pour que tu puisses apprendre à le connaître. Que si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, si pour toi c'est quelque chose d'abstrait, si tu n'as pas expérimenté la vie de Dieu en toi, alors ce soir tu peux le vivre, ce soir ou même quand tu seras rentré chez toi. Mais en t'avançant sur le devant, tu vas peut-être faire cet acte de foi qui permettra à Dieu d'agir dans ta vie. Est-ce que tu veux expérimenter cette nouvelle naissance, cette vie de Dieu que tu n'as jamais expérimentée, cette grâce de Dieu, cette paix qui veut t'entourer, qui veut te faire du bien? Ce soir, elle est pour toi si tu le désires. Est-ce que peut-être tu te rends compte que pendant tant d'années, tu as essayé de produire des fruits par toi-même, par tes propres efforts, et tu n'as pas réussi, tu t'es découragé? Viens, Jésus, demande-lui son secours. Peut-être que toi aussi tu as été maladroit vis-à-vis de certaines personnes et que tu désires que le Seigneur te pardonne. Si c'est ton cas, il te faudra quand même réparer. Il te faudra quand même aller vers la personne que tu as offensée pour lui demander pardon. Mais tu as tout à gagner là encore. Tu as tout à gagner à demander au Seigneur sa grâce et qu'il t'aide toi-même à marcher. Qu'il t'aide aussi à produire du fruit qui est digne de la repentance. Que nous puissions pleinement nous examiner maintenant pendant ce chant.